Deux extraits de Pêcheurs d'Islande, Pierre Loti. Première partie, chapitre 1. Ils étaient cinq, aux carrures terribles, accoudés à boire, dans une sorte de logis sombre qui sentait la saumure et la mer. Le gîte, trop bas pour leur taille, s'effilait par un bout, comme l'intérieur d'une grande mouette vidée. Il oscillait faiblement, en rendant une plainte monotone avec une lenteur de sommeil. Dehors, ce devait être la mer et la nuit, mais on n'en savait trop rien. Une seule ouverture, coupée dans le plafond, était fermée par un couvercle en bois, et c'était une vieille lampe suspendue qui les éclairait en vacillant. Il y avait du feu dans un fourneau. Leurs vêtements mouillés séchaient, en répandant de la vapeur qui se mêlait aux fumées de leurs pipes de terre. Leur table massive occupait toute leur demeure. Elle en prenait très exactement la forme, et il restait juste de quoi se couler autour pour s'asseoir sur des caissons étroits scellés aux murailles de chêne. De grosses poutres passaient au-dessus d'eux, presque à toucher leur tête, et, derrière leur dos, des couchettes qui semblaient creusées dans l'épaisseur de la charpente s'ouvraient comme les niches d'un caveau pour mettre les morts. Toutes ces boiseries étaient grossières et frustres, imprégnées d'humidité et de sel, usées, polies par les frottements de leurs mains. Ils avaient bu, dans leurs écuelles, du vin et du cidre, qui étaient franches et braves. Maintenant, ils restaient attablés et dévisaient, en breton, sur des questions de femmes et de mariage. Contre un panneau du fond, une Sainte Vierge en faïence était fixée sur une planchette, à une place d'honneur. Elle était un peu ancienne, la patronne de ces marins, et peinte avec un art encore naïf. Mais les personnages en faïence se conservent beaucoup plus longtemps que les vrais hommes. Aussi, sa robe rouge et bleue faisait encore l'effet d'une petite chose très fraîche au milieu de tous les gris sombres de cette pauvre maison de bois. Elle avait dû écouter plus d'une ardente prière à des heures d'angoisse. On avait cloué à ses pieds deux bouquets de fleurs artificielles et un chapelet. Ces cinq hommes étaient vêtus pareillement. Un épais tricot de laine bleue serrant le torse et s'enfonçant dans la ceinture du pantalon. Sur la tête, l'espèce de casque en toile goudronnée qu'on appelle surroi, du nom de ce vent de sud-ouest qui, dans notre hémisphère, amène les pluies. Ils étaient d'âge divers. Le capitaine pouvait avoir 40 ans, trois autres de 25 à 30. Le dernier, qu'ils appelaient Sylvestre ou Lurlu, n'en avait que 17. Il était déjà un homme pour la taille et la force. Une barbe noire très fine et très frisée couvrait ses joues. Seulement, il avait gardé ses yeux d'enfant, d'un gris bleu, qui était extrêmement doux et tout naïf. Très près les uns des autres, faute d'espace, ils paraissaient éprouver un vrai bien-être, ainsi tapis dans leur gîte obscur. Dehors, ce devait être la mer et la nuit, l'infinie désolation des eaux noires et profondes. Une montre de cuivre, accrochée au mur, marquait 11 heures. 11 heures du soir, sans doute. Et, contre le plafond de bois, on entendait le bruit de la pluie. Ils traitaient très gaiement entre eux ces questions de mariage, mais sans rien dire qui fût déshonnête. Non, c'était des projets pour ceux qui étaient encore garçons, ou bien des histoires drôles arrivées dans le pays pendant des fêtes de noces. Quelquefois, ils lançaient bien, avec un bon rire, une allusion un peu trop franche au plaisir d'aimer, mais l'amour, comme l'entendent les hommes, ainsi trempé, est toujours une chose saine, et dans sa crudité même, il demeure presque chaste. Cependant, Sylvestre s'ennuyait, à cause d'un autre appelé Jean, un nom que les Bretons prononcent Yann, qui ne venait pas. En effet, où était-il donc ce Yann, toujours à l'ouvrage là-haut? Pourquoi ne descendait-il pas à prendre un peu de sa part de la fête? tantôt minuit pourtant, dit le capitaine. Et, en se redressant debout, il souleva avec sa tête le couvercle de bois, afin d'appeler par là ce Yann. Alors une lueur très étrange tomba d'en haut.
« Yann ! Hé, l'homme !»
L'homme répondit rudement du dehors. Et par ce couvercle, un instant entr'ouvert, cette lueur si pâle qui était entrée ressemblait bien à celle du jour. Bientôt minuit. Cependant, c'était bien comme une lueur de soleil, comme une lueur crépusculaire renvoyée de très loin par des miroirs mystérieux. Le trou refermé, la nuit revint. La petite lampe se remit à briller jaune, et on entendit l'homme descendre avec de gros sabots par une échelle de bois. Il entra, obligé de se courber en deux comme un gros ours, car il était presque un géant. Et d'abord, il fit une grimace en se pinçant le bout du nez à cause de l'odeur âcre de la saumure. Il dépassait un peu trop les proportions ordinaires des hommes, surtout par sa carrure qui était droite comme une barre quand il se présentait de face. Les muscles de ses épaules, dessinés sous son tricot bleu, formaient comme deux boules en haut de ses bras. Il avait de grands yeux bruns, très mobiles, à l'expression sauvage et superbe. Sylvestre, passant ses bras autour de ce Yann, l'attira contre lui par tendresse, à la façon des enfants. Il était fiancé à sa sœur, il le traitait comme un grand frère. L'autre se laissait caresser avec un air de lion câlin, en répondant par un bon sourire à dents blanches. Ses dents, qui avaient eu chez lui plus de place pour s'arranger que chez les autres hommes, étaient un peu espacées et semblaient toutes petites. Ses moustaches blondes étaient assez courtes, bien que jamais coupées. Elles étaient frisées, très serrées, en deux petits rouleaux symétriques au-dessus de ses lèvres, qui avaient des contours fins et exquis. Et puis, elles s'ébouriffaient aux deux bouts, de chaque côté des coins profonds de sa bouche. Le reste de sa barbe était tondu ras, et ses joues colorées avaient gardé un velouté frais, comme celui des fruits que personne n'a touché. On remplit de nouveau les verres quand Yann fut assis et on appela le mousse pour rembourrer les pipes et les allumer. Cet allumage était une manière pour lui de fumer un peu. C'était un petit garçon robuste, à la figure ronde, un peu le cousin de tous ces marins qui étaient plus ou moins parents entre eux. En dehors de son travail assez dur, il était l'enfant gâté du bord. Yann le fit boire dans son verre et puis on l'envoya se coucher. Après, on reprit la grande conversation des mariages. « Et toi, Yann ?» demanda Sylvestre. « Quand est-ce ferons-nous tes noces ?»«
Tu n'as pas honte, » dit le capitaine. « Un homme si grand comme tu es, à 27 ans, pas marié encore. Les filles, qu'est-ce qu'elles doivent penser quand elles te voient ?»
Lui répondit en secouant d'un geste très dédaigneux pour les femmes, ses épaules effrayantes.
Mes noces à moi, je les fais à la nuit. D'autres fois, je les fais à l'heure. C'est suivant.
Il venait de finir ses 5 années de service à l'État, ce Yann. Et c'est là, comme matelot canonnier de la flotte, qu'il avait appris à parler le français et à tenir des propos sceptiques. Alors, il commença de raconter ses noces dernières, qui, paraît-il, avaient duré 15 jours. C'était à Nantes, avec une chanteuse. Un soir, revenant de la mer, il était entré un peu gris dans un alcazar. Il y avait à la porte une femme qui vendait des bouquets énormes au prix d'un louis de 20 francs. Il en avait acheté un, sans trop savoir qu'en faire. Et puis, tout de suite en arrivant, il l'avait lancé à tour de bras en plein par la figure à celle qui chantait sur la scène. Moitié déclaration brusque, moitié ironie pour cette poupée peinte qu'il trouvait par trop rose. La femme était tombée du coup. Après, elle l'avait adorée pendant près de 3 semaines.
« Même, dit-il, quand je suis partie, elle m'a fait cadeau de cette montre en or. »
Et pour la leur faire voir, il la jetait sur la table comme un méprisable joujou. C'était compté avec des mots rudes et des images à lui. Cependant, cette banalité de la vie civilisée détonnait beaucoup au milieu de ces hommes primitifs, avec ces grands silences de la mer qu'on devinait autour d'eux, avec cette lueur de minuit
entrevue par en haut, qui avait apporté la notion des étés mourants du pôle. Et puis, ces manières de Yann faisaient de la peine à Sylvestre et le surprenaient. Lui était un enfant vierge, élevé dans le respect des sacrements par une vieille grand-mère, veuve d'un pêcheur du village de Ploubazlanec. Tout petit, il allait chaque jour avec elle réciter un chapelet à genoux sur la tombe de sa mère. De ce cimetière, situé sur la falaise, on voyait au loin les eaux grises de la Manche, où son père avait disparu autrefois, dans un naufrage. Comme ils étaient pauvres, sa grand-mère et lui, ils avaient dû de très bonne heure naviguer à la pêche, et son enfance s'était passée au large. Chaque soir, il disait encore ses prières, et ses yeux avaient gardé une candeur religieuse. Il était beau, lui aussi. Et après Yann, le mieux planté du bord. Sa voix très douce et ses intonations de petit enfant contrastaient un peu avec sa haute taille et sa barbe noire. Comme sa croissance s'était faite très vite, il se sentait presque embarrassé d'être devenu tout d'un coup si large et si grand. Il comptait se marier bientôt avec la sœur de Yann, mais jamais il n'avait répondu aux avances d'aucune fille. À bord, ils ne possédaient en tout que 3 couchettes, une pour deux, et ils y dormaient à tour de rôle en se partageant la nuit. Quand ils eurent fini leur fête, célébrée en l'honneur de l'Assomption de la Vierge, leur patronne, il était un peu plus de minuit. 3 d'entre eux se coulèrent pour dormir dans les petites niches noires qui ressemblaient à des sépulcres, et les 3 autres remontèrent sur le pont reprendre le grand travail interrompu de la pêche. C'était Yann, Sylvestre et un de leur pays appelé Guillaume. Dehors, il faisait jour, éternellement jour. Mais c'était une lumière pâle, pâle qui ne ressemblait à rien. Elle traînait sur les choses comme des reflets de soleil d'or. Autour d'eux, tout de suite, commençait un vide immense qui n'était d'aucune couleur. Et en dehors des planches de leur navire, tout semblait diaphane, impalpable, chimérique. L'œil saisissait à peine ce qui devait être la mer. D'abord, cela prenait l'aspect d'une sorte de miroir tremblant qui n'aurait aucune image à refléter. En se prolongeant, cela paraissait devenir une plaine de vapeur. Et puis, plus rien. Cela n'avait ni horizon, ni contour. La fraîcheur humide de l'air était plus intense, plus pénétrante que du vrai froid. Et en respirant, on sentait très fort le goût de sel. Tout était calme et il ne pleuvait plus. En haut, des nuages informes et incolores semblaient contenir cette lumière latente qui ne s'expliquait pas. On voyait clair, en ayant cependant conscience de la nuit, et toutes ces pâleurs des choses n'étaient d'aucune nuance pouvant être nommées. Ces 3 hommes qui se tenaient là vivaient depuis leur enfance sur ces mers froides, au milieu de leurs fantasmagories qui sont vagues et troubles, comme des visions. Tout cet infini changeant, ils avaient coutume de le voir jouer autour de leur étroite maison de planches. Et leurs yeux y étaient habitués, autant que ceux des grands oiseaux du large. Le navire se balançait lentement sur place, en rendant toujours sa même plainte, monotone, comme une chanson de Bretagne, répétée en rêve par un homme endormi. Yann et Sylvestre avaient préparé très vite leur hameçon et leur ligne, tandis que l'autre ouvrait un baril de sel et, aiguisant son grand couteau, s'asseyait derrière eux pour attendre. Ce ne fut pas long. À peine avaient-ils jeté leur ligne dans cette eau tranquille et froide, ils les relevèrent avec des poissons lourds d'un gris luisant d'acier. Et toujours, les morues vives se faisaient prendre. C'était rapide et incessant, cette pêche silencieuse. L'autre éventrait avec son grand couteau, aplatissait, salait, comptait, et la saumure qui devait faire leur fortune au retour s'empilait derrière eux, toute ruisselante et fraîche. Les heures passaient monotones, et dans les grandes régions vides du dehors, lentement, la lumière changeait. Elle semblait maintenant plus réelle. Ce qui avait été un crépuscule blême, une espèce de soir d'été hyperboré, devenait à présent, sans intermède de nuit, quelque chose comme une aurore que tous les miroirs de la mer reflétaient en vagues traînées roses. C'est sûr que tu devrais te marier, Yann, dit tout d'un coup Sylvestre, avec beaucoup de sérieux cette fois, en regardant dans l'eau. Il avait l'air de bien en connaître quelques-unes en Bretagne, qui s'étaient laissées prendre aux yeux bruns de son grand frère, mais il se sentait timide en touchant à ce sujet grave.
Moi, un de ces jours, oui, je ferai mes noces.
Et il souriait, ce Yann, toujours dédaigneux, roulant ses yeux vifs.
Mais avec aucune des filles du pays. Non, moi ce sera avec la mère. Et je vous invite tous, ici, tant que vous êtes, au bal que je donnerai.
Ils continuèrent de pêcher, car il ne fallait pas perdre son temps en causerie. On était au milieu d'une immense peuplade de poissons, d'un banc voyageur, qui, depuis 2 jours, ne finissait pas de passer. Ils avaient tous veillé la nuit d'avant et attrapé en 30 heures plus de 1000 morues très grosses. Aussi, leurs bras forts étaient las et ils s'endormaient. Leur corps veillait seul et il continuait de lui-même sa manœuvre de pêche, tandis que par instants leur esprit flottait en plein sommeil. Mais cet air du large qu'ils respiraient était vierge comme au premier jour du monde et si vivifiant que malgré leur fatigue, ils se sentaient la poitrine dilatée et les joues fraîches. La lumière matinale, la lumière vraie, avait fini par venir, comme au temps de la Genèse. Elle s'était séparée d'avec les ténèbres qui semblaient s'être tassées sur l'horizon et restées là, en masse très lourde. En y voyant si clair, on s'apercevait bien à présent qu'on sortait de la nuit, que cette lueur d'avant avait été vague et étrange comme celle des rêves. Dans ce ciel très couvert, très épais, il y avait çà et là des déchirures, comme des percées dans un dôme, par où arrivaient de grands rayons couleur d'argent rose. Les nuages inférieurs étaient disposés en une bande d'ombre intense, faisant tout le tour des eaux, emplissant les lointains d'indécision et d'obscurité. Ils donnaient l'illusion d'un espace fermé, d'une limite. Ils étaient comme des rideaux tirés sur l'infini, comme des voiles tendues pour cacher de trop gigantesques mystères qui eussent troublé l'imagination des hommes. Ce matin-là, autour du petit assemblage de planches qui portaient Yann et Sylvestre, le monde changeant du dehors avait pris un aspect de recueillement immense. Il s'était arrangé en sanctuaire, et les gerbes de rayons qui entraient par les traînées de cette voûte de temple s'allongeaient en reflets sur l'eau immobile comme sur un parvis de marbre. Et puis, peu à peu, on vit s'éclairer très loin une autre chimère, une sorte de découpure rosée très haute qui était un promontoire de la sombre Islande. Les noces de Yann avec la mer. Sylvestre y repensait, tout en continuant de pêcher sans plus oser rien dire. Il s'était senti triste en entendant le sacrement du mariage ainsi tourné en moquerie par son grand frère. Et puis, surtout, cela lui avait fait peur, car il était superstitieux. Depuis si longtemps, il y songeait à ses noces de Yann. Il avait rêvé qu'elle se ferait avec Gaude Mével, une blonde de Paimpol, et que lui aurait la joie de voir cette fête avant de partir pour le service, avant cet exil de 5 années, au retour incertain, dont l'approche inévitable commençait à lui serrer le cœur. 4 heures du matin. Les autres qui étaient restés couchés en bas arrivèrent tous 3 pour les relever. Encore un peu endormis, humant à pleine poitrine le grand air froid, ils montaient en achevant de mettre leurs longues bottes. Et ils fermaient les yeux, éblouis d'abord par tous ces reflets de lumière pâle. Alors Yann et Sylvestre firent rapidement leur premier déjeuner du matin, avec des biscuits. Après les avoir cassés à coups de maillet, ils se mirent à les croquer d'une manière très bruyante, en riant de les trouver si durs. Ils étaient redevenus tout à fait gais à l'idée de descendre dormir, d'avoir bien chaud dans leur couchette. Et, se tenant l'un l'autre par la taille, ils s'en allèrent jusqu'à l'écoutille, en se dandinant sur un air de vieille chanson. Avant de disparaître par ce trou, ils s'arrêtèrent jouer avec un certain Turc, le chien du bord, un ternevien tout jeune, qui avait d'énormes pattes encore gauches et enfantines. Il l'agaçait de la main, l'autre les mordillait comme un loup et finit par leur faire du mal. Alors Yann, avec un froncement de colère dans ses yeux changeants, le repoussa d'un coup trop fort qui le fit s'aplatir et hurler. Il avait le cœur bon, ce Yann, mais sa nature était restée un peu sauvage. Et quand son être physique était seul en jeu, une caresse douce était souvent chez lui très près d'une violence brutale. Quatrième partie, chapitre 8. Ils furent mari et femme pendant 6 jours. En ce moment de départ, les choses d'Islande occupaient tout le monde. Des femmes de peine empilaient le sel pour la saumure dans les soutes des navires, les hommes disposaient les gréements et chez Yann, la mère, les sœurs, travaillaient du matin au soir à préparer les surrois, les cirages, tout le trousseau de campagne. Le temps était sombre et la mère, qui sentait l'équinoxe venir, était remuante et troublée. Gaud subissait ses préparatifs inexorables avec angoisse, comptant les heures rapides des journées. Attendant le soir où, le travail fini, elle avait son Yann pour elle seule. Est-ce que les autres années, il partirait aussi ? Elle espérait bien qu'elle saurait le retenir, mais elle n'osait pas, dès maintenant, lui en parler. Pourtant, il l'aimait bien, lui aussi. Avec ses maîtresses d'avant, jamais il n'avait connu rien de pareil. Non, ceci était différent. C'était une tendresse si confiante et si fraîche que les mêmes baisers, les mêmes étreintes avec elle étaient autre chose. Et chaque nuit, les deux ivresses d'amour allaient s'augmentant l'une par l'autre, sans jamais s'assouvir quand le matin venait. Ce qui la charmait comme une surprise, c'était de le trouver si doux, si enfant, ce Yann qu'elle avait vu quelquefois à Paimpol faire son grand dédaigneux avec des filles amoureuses. Avec elle, au contraire, il avait toujours cette même courtoisie qui semblait toute naturelle chez lui. Et elle adorait ce bon sourire qu'il lui faisait dès que leurs yeux se rencontraient. C'est que, chez ces simples, il y a le sentiment, le respect inné de la majesté de l'épouse. Un abîme la sépare de l'amante, chose de plaisir, à qui, dans un sourire de dédain, on allait ensuite de rejeter les baisers de la nuit. Gaud était l'épouse, elle, et dans le jour, il ne se souvenait plus de leurs caresses, qui semblaient ne pas compter tant ils étaient une même chair tous deux, et pour toute la vie. Inquiète, elle l'était beaucoup dans son bonheur, qui lui semblait quelque chose de trop inespéré, d'instable, comme les rêves. D'abord, est-ce que ce serait bien durable chez Yann, cet amour ? Parfois, elle se souvenait de ses maîtresses, de ses emportements, de ses aventures, et alors elle avait peur. Lui garderait-il toujours cette tendresse infinie, avec ce respect si doux ? Vraiment, 6 jours de mariage pour un amour comme le leur, ce n'était rien. Rien qu'un petit à-compte enfiévré pris sur le temps de l'existence, qui pouvait encore être si long devant eux. À peine avait-il pu se parler, se voir, comprendre qu'ils s'appartenaient. Et tous leurs projets de vie ensemble, de joie tranquille, d'arrangement de ménage, avaient été forcément remis au retour. Oh, les autres années à tout prix l'empêchaient de repartir pour cette Islande. Mais comment s'y prendre ? Et que ferait-il alors pour vivre, étant si peu riches l'un et l'autre ? Et puis, il aimait tant son métier de mère. Elle essaierait, malgré tout, les autres fois, de le retenir. Elle y mettrait toute sa volonté, toute son intelligence et tout son cœur. Être femme d'Islandais, voir approcher tous les printemps avec tristesse, passer tous les étés dans l'anxiété douloureuse, non, à présent qu'elle l'adorait au-delà de ce qu'elle eût imaginé jamais, elle se sentait prise d'une épouvante trop grande en songeant à ces années à venir. Ils eurent une journée de printemps, une seule. C'était la veille de l'appareillage. On avait fini de mettre le gréement en ordre à bord. Et Yann resta tout le jour avec elle. Ils se promenèrent, bras dessus, bras dessous, dans les chemins comme le font les amoureux, très près l'un de l'autre, et se disant mille choses. Les bonnes gens, en souriant, les regardaient passer. « C'est Gaud, avec le grand Yann de Port-Éven, des mariés d'hier !» Un vrai printemps, ce dernier jour. C'était particulier et étrange de voir tout à coup ce grand calme et plus un seul nuage dans ce ciel habituellement tourmenté. Le vent ne soufflait de nulle part. La mer s'était faite très douce. Elle était partout du même bleu pâle et restait tranquille. Le soleil brillait d'un grand éclat blanc et le rude pays breton s'imprégnait de cette lumière comme d'une chose fine et rare. Il semblait s'égayer et revivre jusque dans ses plus profonds lointains. L'air avait pris une tiédeur délicieuse, sentant l'été, et on eût dit qu'il s'était immobilisé à jamais. Qu'il ne pouvait plus y avoir de jours sombres ni de tempêtes. Les caps, les baies sur lesquelles ne passaient plus les ombres changeantes des nuages dessinaient au soleil leurs grandes lignes immuables. Ils paraissaient se reposer, eux aussi, dans des tranquillités ne devant pas finir. Tout cela comme pour rendre plus douce et éternelle leur fête d'amour. Et on voyait déjà des fleurs hâtives, des primes verts le long des fossés ou des violettes, frêles et sans parfum. Quand Gaud demandait « Combien de temps m'aimeras-tu, Yann ?» lui répondait, étonné, en la regardant bien en face avec ses beaux yeux francs. « Mais Gaud, toujours ?» Et ce mot, dit très simplement par ses lèvres un peu sauvages, semblait avoir là son vrai sens d'éternité. Elle s'appuyait à son bras, dans l'enchantement du rêve accompli. Elle se serrait contre lui, inquiète toujours, le sentant fugitif comme un grand oiseau de mer. Demain, l'envoler au large. Et cette première fois, il était trop tard, elle ne pouvait rien pour l'empêcher de partir. De ces chemins de falaise où il se promenait, on dominait tout ce pays marin qui paraissait être sans arbres, tapissé d'ajoncs ras et semé de pierres. Les maisons des pêcheurs étaient posées çà et là sur les rochers, avec leurs vieux murs de granit, leurs toits de chaume très hauts et bossus, verdis par la pousse nouvelle des mousses. Et, dans l'extrême éloignement, la mer, comme une grande vision diaphane, décrivait son cercle immense et éternel qui avait l'air de tout envelopper. Elle s'amusait à lui raconter les choses étonnantes et merveilleuses de ce Paris où elle avait habité. Mais lui, très dédaigneux, ne s'y intéressait pas. « Si loin de la côte, disait-il, et tant de terre, ça doit être malsain. Tant de maisons, tant de monde, il doit y avoir des mauvaises maladies dans ces villes. Non, je ne voudrais pas vivre là-dedans, moi, bien sûr. » Et elle souriait, s'étonnant de voir combien ce grand garçon était un enfant naïf. Quelquefois, il s'enfonçait dans ces replis du sol où poussent de vrais arbres qui ont l'air de s'y tenir blottis contre le vent du large. Là, il n'y avait plus de jus. Par terre, des feuilles mortes amoncelées et de l'humidité froide. Le chemin creux, bordé d'ajoncs verts, devenait sombre sous les branchages, puis se resserrait entre les murs de quelques hameaux noirs et solitaires, croulant de vieillesse, qui dormaient dans ce bas-fond. Et toujours quelques crucifix se dressaient bien haut devant eux, parmi les branches mortes, avec son grand Christ de bois rongé comme un cadavre, grimaçant sa douleur sans fin. Ensuite, le sentier remontait, et de nouveau, il dominait les horizons immenses. Il retrouvait l'air vivifiant des hauteurs et de la mer. Lui, à son tour, racontait l'Islande, les étés pâles et sans nuit, les soleils obliques qui ne se couchent jamais. Gaud ne comprenait pas bien et se faisait expliquer. « Le soleil fait tout le tour, disait-il en promenant son bras étendu sur le cercle lointain des eaux bleues. Il reste toujours bien bas parce que, vois-tu, Il n'a pas du tout de force pour monter. À minuit, il traîne un peu son bord dans la mer, mais tout de suite, il se relève et il continue de faire sa promenade ronde. Des fois, la lune aussi paraît à l'autre bout du ciel. Alors, ils travaillent tous deux, chacun de son bord, et on ne les connaît pas trop l'un de l'autre, car ils se ressemblent beaucoup dans ce pays. Voir le soleil à minuit, comme ça devait être loin, cette île d'Islande. Et les fjords. Gaud avait lu ce mot inscrit plusieurs fois parmi le nom des morts dans la chapelle des naufragés. Il lui faisait l'effet de désigner une chose sinistre. « Les fjords, » répondait Yann, « des grandes baies, comme ici celle de Paimpol par exemple. Seulement, il y a autour des montagnes si hautes qu'on ne voit jamais où elles finissent, à cause des nuages qui sont dessus. » Un triste pays va, Gaud, je t'assure. Des pierres, rien que des pierres, et les gens de l'île ne connaissent point ce que c'est que les arbres. À la mi-août, quand notre pêche est finie, il est grand temps de repartir, car alors les nuits commencent, et elles allongent très vite. Le soleil tombe au-dessus de la terre sans pouvoir se relever, et il fait nuit chez eux, là-bas, pendant tout l'hiver. Et puis, disait-il, il y a aussi un petit cimetière sur la côte, dans un fjord. Tout comme chez nous, pour ceux du pays de Paimpol qui sont morts pendant les saisons de pêche ou qui sont disparus en mer. C'est une terre bénite, aussi bien qu'à Port-Even, et les défunts ont des croix en bois tout pareilles à celles d'ici, avec leur nom écrit dessus. Les deux Goasdiou de Ploubazlanec sont là, et aussi Guillaume Mohan, le grand-père de Sylvestre. Et elle croyait le voir, ce petit cimetière au pied des caps désolés, sous la pâle lumière rose de ses jours, ne finissant pas. Ensuite, elle songeait à ses mêmes morts sous la glace et sous le suaire noir de ses nuits longues comme les hivers. « tout le temps pêcher ?» demandait-elle, « sans se reposer jamais ?»« Tout le temps. Et puis il y a la manœuvre à faire, car la mer n'est pas toujours belle par là, dame. » On est fatigué le soir. Ça donne appétit pour souper et des jours, on dévore.
Et on ne s'ennuie jamais ?
Jamais ! Dit-il avec un air de conviction qui lui fit mal. À bord, au large, moi, le temps ne me dure pas. Jamais !
Elle baissa la tête, se sentant plus triste, plus vaincue par la mer.